Peu de temps après, j'accouchais de ma fille. Moresquin la trouva jolie et s'en félicita d'une manière révoltante. Elle fut mise en nourrice, toujours d'après les vues de ce misérable, que je serais une ressource pour lui par le reste de mes attraits qui ménageaient si peu. Mais il avait un motif pour me maltraiter que son extrême bassesse lui suggérait malgré sa sottise. Il avait compris qu'en m'avilissant, en m'inspirant une crainte qui allait jusqu'aux convulsions, j'aurais moins d'énergie dans l'âme pour résister à ses vues criminelles. Ainsi, rien de ce qui aurait pu le porter à me ménager ne faisait sur lui qu'une impression subordonnée. D'ailleurs, il était si brutal qu'il n'aurait pu suivre un plan de douceur s'il avait eu l'esprit assez juste pour le concevoir. En voici la preuve, car le trait que je vais raconter ne pouvait être prémédité. C'est une vraie boutade de brutalité. Il y avait 4 jours que j'étais accouché de ma fille, et c'était le jour de l'an 1782. Moresquin se faisait accommoder le matin. Il demanda 2 biscuits à la garde, pour lui et son perruquier. Je réponds en riant, n'ayant pas été maltraité depuis mes couches, que les hommes ne mangeaient pas de biscuits. Et en même temps, je les lui fis servir. J'eus tort, il est vrai, de jouer avec un tigre. Comme j'avais badiné, je ne pensais guère que je venais d'exciter un orage terrible. Moresquin repousse les biscuits, s'élance sur moi comme un furieux et allait m'assommer sans le perruquier et la garde. Retenu par eux, il se livra aux plus grands excès d'injures, m'accusant d'avoir le sang pourri de mes pères et mères, etc. J'étais tremblante et pâle. Un frisson mortel fut suivi d'une sueur froide universelle. Mon état semblait exciter sa brutalité. Dès que le perruquier fut parti, le monstre renversa la table avec ce qui était dessus, prit le tiroir d'une commode où étaient les choses propres à mon état, les jeta au feu et brisa le tiroir contre terre, ferma la porte à double tour, prit son épée, disant qu'il allait me tuer et se poignarder ensuite. La garde était occupée à le retenir. Il n'était que 6 heures du matin. Il faisait tant de bruit qu'il ne m'entendit pas ouvrir la porte. Je m'enfuis nu chez ma tante, qui me fit promptement mettre au lit et qui me sauva la vie par ses soins. Elle a pensé mourir du saisissement que cette scène lui causa. Moresquin a dit depuis qu'en apprenant mon évasion, il en avait été enchanté, ne doutant pas que par là et sans s'exposer, je ne le débarrasse de la nièce et de la tante. Il est vrai que ce misérable est accoutumé à causer la mort des étrangers et des personnes qui le touchent de plus près. Si ses propres parents, après la retraite de son père des bureaux, n'avaient pas pris le sage parti de s'éloigner, il les aurait fait mourir de douleur. Il est certain qu'ils n'ont quitté Paris que pour n'être pas continuellement exposés à ses violences ou à l'en faire punir. Il est temps de raconter comment il se fit que Moresquin ne succéda pas à son père et de faire valoir quelle idée on avait de lui dans les bureaux. Moresquin père, affaibli par l'âge et presque hors d'état de remplir ses devoirs, différait cependant à demander sa retraite dans l'espérance que son fils lui succéderait. Mais les déportements de ce dernier depuis son mariage, joints aux brutalités dont il s'était rendu coupable dans le temps qu'il était chez son père, avait aliéné les supérieurs. Et, en dernier lieu, l'affaire avec M. L.T., qui était su de toute la gent à bureau, le faisait regarder comme un infâme. Il n'y avait aucune espérance. Cependant, le vieillard Moresquin osa parler. On lui ferma la bouche dès le premier mot. Mais pour lui montrer qu'on était parfaitement content de lui, on augmenta sa retraite de 400 livres sur 1200. « Vous vous servirez de ce surcroît, lui dit-on, pour vous faire respecter de votre fils. » Le triste vieillard accepta, désespéré d'avoir donné le jour à un monstre qui déshonorait son nom. Moresquin apprit avec rage qu'il n'avait rien à espérer, pas même la dernière place dans le bureau de son père. Il chercha querelle à l'auteur de ses jours, l'accusant de l'avoir desservi. Tous les soirs, il allait dire des injures à ses parents et les tourmenter pour leur tirer l'argent dont il avait besoin. Ils s'aperçurent bientôt qu'il n'y suffirait pas. Ils résolurent de mettre 12 lieues entre eux et lui. Sans en rien dire, ils firent tous leurs arrangements et Moresquin ne sut leur départ qu'à l'instant même par les précautions qu'ils avaient prises. Sa fureur, sa rage allèrent à l'extrême. Mais les voisins s'étant jetés sur lui et menaçant de le faire arrêter, malgré sa mère, il fut obligé de s'éloigner et ses parents quittèrent Paris. Il ne tarda pas à les relancer où ils étaient, mais là et partout le reste de la province, on n'est pas isolé comme à Paris, où chacun ne s'occupe que de soi-même. Moresquin père avait intéressé ses voisins et il avait prévenu le juge de police qui se fit un devoir de lui donner assistance. Dès la première visite qu'il fit à ses parents, Moresquin fils eut la preuve de l'efficacité de tous ses arrangements. Il fut sévèrement réprimé. Il s'en revint plein de rage. Il avait une victime à Paris. C'est elle qui va souffrir de tout ce qu'il n'avait pu faire chez ses parents. J'étais traînante depuis mes couches et la scène qui les avait suivies de si près. Moresquin, ne voyant plus jour à tirer parti de moi à cause de ma triste situation, se livrait à toute l'atrocité de son caractère et tâchait de me rendre la vie insupportable par un supplice continuel. Il me donnait des noms infâmes et j'entendais 3 fois par jour les plus exécrables injures. Au moindre mot, j'étais frappé, tenaillé, j'avais la chair tordue. Il n'est pas possible de raconter les infamies auxquelles il se livrait dans le même temps. Il lui prit une sorte de rage lubrique, car je ne puis dire amoureuse. Il semblait que mon état souffrant l'excitât à me tourmenter. Il employait avec moi les expressions brutales dont les libertins se servent avec les filles. Il me forçait à des choses également repoussantes et criminelles. Une nuit que je souffrais beaucoup de ma joue et d'une colique, il se plut à jouir de mes douleurs et des convulsions qu'elles me donnaient, disant brutalement et en d'autres termes que je valais beaucoup mieux malade qu'en santé. Une autre fois que j'étais dans un état d'anéantissement et de mort, au milieu de sa brutalité, il me tordit cruellement la chair, ce qui me fit pousser un cri accompagné d'un mouvement violent. Le monstre applaudit, recommença, et tandis que je m'évanouissais de douleur, il achevait sa détestable volupté. J'étais entre ses mains un être passif, de l'existence duquel il disposait au gré de ses passions, avec plus de despotisme que le colon le plus cruel du Nouveau Monde ne dispose d'une négresse. Que faire ? J'étais sans appui. Ma tante, femme faible, osait à peine me garder un jour quand je fuyais chez elle. Je souffrais. Mais ce qu'on a vu n'était pas le comble du malheur pour moi. Le monstre va devenir jaloux. Cet homme vil et criminel, qui m'eût vendu au plus odieux des libertins pourvu qu'on lui payait, va, il faut le dire, feindre la jalousie pour me déshonorer, pour me rendre plus soumise à ses abominables vues sur moi. Nous étions en automne. C'était le jour de Saint-Denis. Il faisait beau. Je me portais mieux. Une épouse chérie serait morte de ce que j'avais souffert. Moi, je me portais mieux pour avoir eu seulement un peu de relâche. Moresquin, en se levant, voyant l'amorce d'un beau jour, me dit « Habille-toi. C'est aujourd'hui la dernière promenade des catins de Paris. Si tu ne l'es pas, tu le seras bientôt. Allons-y. Tu ne reviendras pas sans avoir fait un michet. » J'étais accoutumé à des discours plus horribles encore, puisque je n'ai pu les rapporter. Je m'habillais. Nous sortîmes à 11 heures et nous allâmes à l'arsenal où Moresquin trouva un de ses confrères, grand garçon fadement beau. Il le tutoya et lui dit de me donner le bras, que nous irions sur les boulevards. Le jeune homme me présenta poliment la main. J'hésitais. Un coup d'œil de Moresquin me força d'accepter. Le monstre, depuis ce moment, affecta d'aller à 10 pas devant nous. Il s'arrêtait quelquefois pour nous attendre et nous dire des obscénités dont j'observais que Fromentel ne riait pas. Bientôt même, il me dit qu'il n'était pas l'ami de Moresquin, que leurs sentiments ne s'accordaient pas. Ensuite, en me demandant pardon de sa sincérité, il ajouta qu'il le méprisait. Je pris confiance dans ce jeune homme dont l'air me parut honnête. J'ignorais que toute cette clique de commis ne renferme pas un honnête homme, que tous sont des scélérats sans mœurs, les uns ouvertement, les autres avec quelque décence et par là plus dangereux. Fromentel était de ces derniers. Nous passâmes ensemble le reste de la journée qui se termina par la comédie, c'est-à-dire cette comédie bourgeoise où Moresquin et son ami avaient tous deux des connaissances. On vint souper à la maison et l'on ne se quitta qu'à minuit. Par un phénomène extraordinaire, Moresquin fut tranquille à souper et parla raisonnablement. Ce ne furent que des politesses, d'un assez mauvais genre à la vérité, mais enfin, ce furent des politesses. Après le départ du jeune homme, Moresquin me demanda ce que j'en pensais. Je répondis qu'il était fort aimable. Le monstre ne répliqua pas. Mais à peine au lit, il me dit, en se livrant à sa brutalité, qu'il ne tenait qu'à moi de répondre à sa passion en me figurant que je tenais Fromentel dans mes bras. Je n'osais rien dire. Mais, n'exécutant pas les ordres du brutal, je reçus des coups de pouce dans les côtes, ce qu'il appelait des coups d'éperon, et j'eus la chair des bras tordus. Il s'endormit ensuite, et je fus tranquille le reste de la nuit, car le matin, j'étais levé avant qu'il ne s'éveillât. Les deux jours suivants, jusqu'au dimanche, passèrent assez paisiblement. Je ne fus même pas tourmenté par Moresquin, qui se livra, comme il lui était souvent arrivé pendant mes maladies, à un vice particulier qui me répugnait extrêmement à cause des choses que le monstre disait tout haut en s'abandonnant à cet égarement. Enfin, le dimanche arriva, jour terrible et que je ne puis me rappeler sans en frémir encore. Mais Moresquin n'est pas seulement un infâme, un scélérat, c'est un fou, car il y a de l'aliénation dans ce qu'on va lire, après néanmoins que j'aurais dit que ce misérable, longtemps sans emploi, venait d'être placé dans les bois à brûler, espèce de commission fort basse, et qui n'est remplie que par les sujets les plus incapables. Voici comment. On tirait un feu d'artifice à la grève. Une marquise, des connaissances de mon père, vint à notre croisée. Moresquin, toujours bas, lui parla de sa misère et la pria de s'intéresser pour lui faire avoir un emploi. La dame parla des bois à brûler et Moresquin accepta cette place qui est de 600 livres. Il y fut installé, mais il n'y resta pas longtemps. Ces espèces de commis sont quelquefois chargés du recouvrement de certaines sommes pour du bois vendu en quantité à des personnes connues. Le dimanche où nous en sommes, Moresquin avait été le matin faire un de ses recouvrements, et on lui avait donné à déjeuner dans la maison où il avait reçu de l'argent. Il s'était grisé. Revenons maintenant à la scène que j'ai annoncée. Fromentel vint nous voir, suivant l'invitation pressante qu'il en avait reçue. Moresquin le vit avec transport, ce qui me ferait croire que les scènes affreuses ont un charme particulier pour ce monstre et qu'elles sont véritablement un charme pour lui. On dîna gaiement. Moresquin, qui avait copieusement déjeuné et dont la tête était déjà embarrassée, but beaucoup, sans doute pour achever de s'enivrer. En sortant de table, il proposa une promenade au jardin du roi. Il dit à son ami de me donner le bras et d'aller toujours devant, parce qu'il avait de l'argent à prendre afin de le porter au marchand de bois. Il fut convenu que nous remonterions le petit bras de la rivière le long de l'ancien mail et que nous passerions l'eau à la râpée. Moresquin devait nous joindre avec son fils qu'il aimait à porter, mais il n'eut garde de nous suivre dans l'horrible dessein qu'il avait formé. Il passa le pont Marie et prit par le quai Saint-Bernard. Nous avions beau l'attendre à l'endroit du passage. Nous entrâmes enfin dans le bateau, présumant une partie de ce qui était arrivé, c'est-à-dire que Moresquin moitié ivre, avait oublié le chemin indiqué par lui-même, qu'il avait pris l'autre et qu'il était arrivé. En effet, nous le trouvâmes au jardin du roi. Il était furieux. Il m'aborda en grinçant les dents et me dit à l'oreille « Garce, putain, tu es monté chez Fromentel et dans sa chambre. Je le vois à la rougeur de tes oreilles et si j'étais chez moi, je trouverais d'autres preuves. Mais tu seras rondiné ce soir avec un autre rondin que celui qui t'a fait tant de plaisir. » À ces infamies, je répondis qu'il n'y pensait pas, qu'il oubliait que c'était la seconde fois que je voyais ce jeune homme, et que, fût-ce la centième, je savais me respecter, qu'il ne m'avait pas dit un mot d'amour, et qu'il y aurait été fort mal reçu, que je détestais les commis en général, que jamais je ne le reverrais, et que j'allais le prier de se dispenser de nous rendre visite. « Si tu lui dis un mot, je t'écrase, même dans ce jardin. » Moresquin n'était pas véritablement jaloux, mais il lui passait alors par la tête une abominable folie qu'il n'avait pas encore détaillée, et c'était là ce qui m'attirait la scène qu'il me faisait. On en sera bientôt instruit. Il alla ensuite auprès du jeune homme qui tenait notre fils, et lui parla en riant. Le soir, il le retint à souper, et il se fit un sot plaisir de faire le rôle d'Arnofle dans l'école des femmes. Il apprit à Fromentel que je l'aimais. Il feignit de plaisanter en disant « Si j'ai à l'être, il vaut mieux que ce soit par un joli garçon comme toi que par un autre. » Et mille propos semblables, tenus avec la brutalité, la maladresse, la sottise d'un homme sans éducation. Je pâlissais. Le jeune homme rougissait. Il abrégea le souper et se retira. Après son départ, Moresquin me demanda si je me souvenais de ce qu'il m'avait promis. « Je ne vous crois pas injuste, lui répondis-je, au point de me frapper pour une chimère de votre imagination. » Il me répondit par un soufflet. Je me récriai. Il se jeta sur moi, me donna des coups de pied et de poing en me répétant « Ça ne vaut pas les coups de Fromentel, B.S. Mais après le beau temps, la pluie. Après le plaisir, la peine. Allons, putain, comment trouves-tu celui-là ? » Et il frappait. Je faisais des hurlements horribles, ne pouvant m'échapper. Il voulut ensuite me visiter, disant qu'il trouverait des preuves. Il me saisit, et la douleur qu'il me causa me fit trouver mal. Il prétendit avoir trouvé des preuves. Voilà des horreurs inouïes. Elles ne sont rien comparées à ce qui va suivre. Moresquin me déclara que j'étais convaincu qu'il n'y aurait plus qu'un moyen de mériter mon pardon. Je crus l'entendre et qu'il s'agissait de me vendre à quelque libertin, mais je ne pus répondre. Il ouvrit les portes, me força de raccommoder ma coiffure et me dit qu'il allait faire un tour avec moi pour dissiper les noires vapeurs de son cerveau. Je ne pouvais avoir de volonté, je sortis. Il était 11h30, mais souvent, Moresquin s'était promené jusqu'à 2h du matin avec moi et d'autres. Il me mena sur le port au bled, et nous montâmes dans une maison d'une petite rue fort sale. Parvenu à un troisième, Moresquin frappa. Une petite femme, proprement mise, mais l'air effronté, vint nous ouvrir. Je ne la reconnus pas d'abord. Mais aux libertés que prit Moresquin et au tour de sa marche, je me rappelai bientôt que c'était une fille que j'avais vue souvent devant nos fenêtres. Je frémis de me trouver chez une pareille créature. Après que Moresquin eut pris quelques libertés, il lui parla fort bas à l'oreille. Elle l'écoutait et me regardait à chaque mot. Lorsqu'il eut cessé de parler, elle lui répondit tout haut que cela ne se pouvait pas, que si cela venait à se savoir, elle serait enfermée pour le reste de ses jours. Moresquin l'assura que cela ne se saurait jamais et qu'il me ferait agir de telle façon qu'elle ne serait pas exposée. « Je voudrais bien t'obliger, comme ancienne connaissance, lui dit la fille, mais arrange-toi, loue une chambre. Pour chez moi, cela ne se peut pas. Si elle voulait s'associer librement et de bonne amitié, à la bonne heure, nous partagerions comme sœurs, mais je ne me prêterai jamais à ce que tu dis. Eh bien, « Sors, lui dit Moresquin, quand tu reviendras, elle sera déterminée à tout. » La fille sortit. « Ah ça, putain, me dit Moresquin dès qu'elle fut partie. Je t'ai dit que tu n'avais qu'un moyen de te faire pardonner. Tu es ici chez une catin qui gagne bien sa vie et qui est bonne fille. Elle a des pratiques. Tu n'es pas connu ayant peu sorti. Je n'ai que 600 livres. Toutes mes ressources sont à sec. Tu n'es pas assez adroite pour être entretenu. Cette fille-ci gagne ses 2 louis au moins par semaine. Il faut que tu me profites. Je t'ai proposé hier au soir pour être son associé. Elle a demandé à te voir. Elle ne veut rien faire si tu ne le consens de bon cœur. Mais si tu consens, tu gagneras plus qu'elle. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu ne sortiras jamais. Elle amènera les hommes. Tu peux compter que je te traiterai avec une douceur qui t'étonnera. Je t'aimerai 100 fois plus que si tu n'étais qu'à moi. J'ai le goût de ces femmes-là, et si tu l'es, pour mon intérêt et pour me faire plaisir, je serai fou de toi. Tu verras que je suis aussi bon, hein, que je suis méchant mari. Voilà ton sort entre tes mains. Parle. Je tombai à ses genoux en lui disant, « Y songez-vous, mon cher mari, et vos parents? Je ne vous parle pas des miens. Et le monde, et vos connaissances. Personne ne le saura, commandons. Je serai au désespoir qu'on le sût. Personne ne le saura, je te couvrirai. Notre bonne union fermera la bouche à tout le monde. Tiens, tu verras de ce cabinet tous ceux qui entreront, et il sera convenu que, quand tu ne sortiras pas, la Zahir ne parlera pas de toi. » Que dire à un pareil homme ? Je ne pouvais parler ni de la religion, ni de l'honneur. J'insistais sur ce que je serais bientôt connu et déshonoré. Le monstre ne s'emporta pas comme je m'y attendais, car je pouvais crier, faire du bruit et le démasquer. Infortuné, je ne pensais pas que, si cela fût arrivé, le monstre me perdait. Il aurait dit qu'il venait de me surprendre dans ce mauvais lieu. Il m'aurait fait conduire par la garde chez le commissaire, à Saint-Martin, à l'hôpital. Je tiens de lui ces horribles détails de la conduite qu'il aurait tenue. Il ne s'emporta pas, au contraire. Il me parlait avec douceur, me représentant que nous étions sans ressources et que, si je l'obligeais en ceci, je serais sa bienfaitrice adorée. Comment faire ? Il me vint à l'idée de le prier d'ouvrir une fenêtre, de lui demander un verre d'eau et de me précipiter sur le pavé. Comme je roulais cette pensée dans mon esprit, nous entendîmes monter et tourner la clé de la première porte. Moresquin me fit cacher avec lui dans le cabinet secret dont il m'avait parlé, et bien lui en prit. C'était Fromentel qui amenait la Zahir.